pouvoir entamer maintenant cette table ronde sur la grande guerre entre histoire et fiction, avec tout un groupe très loin de moi là-bas, Cyril Edgar, donc qui est l'auteur avec Paul Verne de 14 novembre, mais qui est aussi l'auteur d'un autre roman historique pour la jeunesse, qui s'appelle Anna et les noces de la reine Margot, qui se déroule en 2015, le jour en 1570. Cyril Edgar est passionné de l'histoire, manifestement. À côté d'elle, donc, Paul Verne, auteur pour 14, mais que l'on connaît aussi pour ses nombreux ouvrages de fantasy, son diptyque La pucelle de Diable Vert, Les derniers parfaits, et que le 7e Gabinage. À côté de lui, Bernard Cuffu, qui est un illustrateur, d'abord, et j'ai vu, présenter ici, et j'ai vu que vous avez fait les illustrations de ce 14, le célèbre roman de Michel Bois. Vous avez aussi illustré le grand propos de Jean Giono. Non ?
Ah. Alors là, c'est. Je présente ça sur mon site, mais j'ai commencé à illustrer le grand propos de Jean Giono. Je présente des projets aussi, mais c'est ça qui vous a trompé.
Ah, d'accord.
Voilà. Et j'ai illustré le vol de nuit de Saint-Exupéry aussi, chez Gallimard. Voilà.
Je vais le centrer sur la guerre de 14.
Oui, oui.
C'est un projet qui démarre.
J'aurais voulu, moi j'ai cherché un éditeur, je voulais illustrer absolument la guerre de 14 à l'occasion de cette commémoration. Et j'avais proposé plusieurs projets, dont le grand propos de Giono, dont une adaptation d'une nouvelle de Kipling sur la guerre de 14, et c'est ça que vous avez vu sur mon site.
Oui, parce que j'avais aussi voulu faire l'adaptation en BD de la tranchée des Irish Wars.
Alors, la tranchée des Irish Wars, c'est moi qui en ai trouvé le titre, c'est une adaptation d'une nouvelle de Kipling. Kipling a perdu son fils unique en 1915, dès la première bataille à laquelle il a participé. Et j'ai adapté cette nouvelle et je lui ai donné ce titre-là parce que le fils de Kipling faisait partie du régiment des Irish Guards.
D'accord. Et à côté de moi, Alain Gousset, qui est l'auteur d'un grand nombre de romans de science-fiction, dont un qui s'intitule La guerre de 14 n'a pas eu lieu et qui est un roman uchronique, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est. Pourquoi cela s'adapte. Et donc, il me semble que on peut commencer tout de suite, parce que ce qui est important, c'est en ce centenaire, ces commémorations du centenaire de la guerre de 14, qui était sans doute une des guerres les plus horribles et les plus dures de l'histoire, c'est de passer le message sur ce qu'on a pu vivre. Ces gens, alors je vais me tourner tout de suite vers vous, parce que vous illustrez la guerre de 14 telle qu'elle a été vraiment dans les tranchées. Donc, qu'est-ce que ça implique comme travail pour ça?
Alors, moi, j'illustre vraiment ce qu'a été la guerre, surtout parce que j'illustre le texte de Maurice Genevoix. Et Genevoix, écrivain combattant, à la différence de presque tous les autres écrivains combattants, il s'est interdit tout arrangement fabulateur, comme il dit, tout effet de fiction. Parce qu'il lui semblait que cette réalité-là était tellement particulière, tellement intense, qu'elle avait ses règles propres. Et dans ces règles-là, il y avait celle-ci, c'est qu'il ne fallait pas changer ce qu'il avait vécu. Et d'ailleurs, il dédie son livre à ses camarades morts et à ceux qui ont survécu. Et pour moi, c'est un témoignage plus grand que lui, en fait. Il a mis son talent, son grand talent, au service de ce témoignage humain. Et on a la chance d'avoir ce témoignage-là, parce qu'ils sont rares, les livres comme celui-là, qui sont fidèles à la réalité vécue. Et pour celui qui se demande comment il aurait vécu cette guerre-là, je dois dire que Genevoix avait 24 ans, il était étudiant en littérature à l'école normale supérieure, il n'avait rien d'un guerrier, et du jour au lendemain, il a été plongé dans cette guerre. Quand j'ai appris que ça n'avait pas existé, je me suis dit, mais comment est-ce que cet homme-là a pu vivre ce drame? Et depuis, je l'ai revu bien des fois, et c'est un livre très émouvant et très fort.
Et donc, comment fait-on pour illustrer un texte comme celui-là? Il faut, je suppose, beaucoup de recherches, alors peut-être travailler sur des photos.
C'est très simple. D'abord, on a la chance d'avoir beaucoup de photos de cette époque-là. Et puis, le travail de documentation d'uniforme, il est très facile à faire. On a quelques photos de soldats en 1914-1915. On sait que le casque Adrien n'existait pas encore, donc ça, c'est une erreur facile à éviter. On sait que ces hommes-là, nos éparges, ils vivaient dans la boue, dans l'hiver, donc les vêtements étaient complètement souillés de boue, ils n'avaient plus de couleur, ils étaient disparates. Ils avaient des uniformes neufs en août 14, mais quelques semaines après, ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils avaient reçu. L'armement, c'est très simple, il y avait le fusil Lebel, dans les tranchées, il y a beaucoup de photos de tranchées. Pour ce qui est de la documentation, c'est très très simple. Mais en tout cas, une règle est importante, c'est qu'en dessin figuratif, il faut toujours rester proche de la documentation, du modèle, parce que quand on s'en éloigne, on s'appauvrit en fait. Voilà.
Ensuite sur la guerre de 14. Alors, il y a, si la lettre de Paul Delorme, vous voudrez commencer à vous éloigner, à traiter la guerre de 14 d'une manière, les tout débuts de la guerre de 14 d'une manière un peu différente, à travers votre, le roman que vous avez écrit, au 14-14. Alors, peut-être d'abord, vous pouvez présenter aux personnes ici présentes. Le principe de base de cette correspondance.
Alors le principe de 14-14, c'est qu'on a deux personnages en fait qui vont communiquer avec un petit processus fantastique. On en a un jeune garçon, Adrien, qui vient en 2014, un jeune homme comme on en connaît, un collégien avec ses petits problèmes plus ou moins graves, et puis un autre Adrien qui lui vient en 1914, donc on est en janvier 1914, la guerre n'a pas démarré, et pour des personnes comme Adrien qui vivent en campagne, il ne va pas forcément se passer ce que souvent on connaît. Hein. Et donc ils se retrouvent à échanger des lettres un peu par magie. Ils deviennent amis à travers cet échange-là, progressivement, sans se rendre compte qu'ils sont séparés par ce siècle d'écart, parce que celui d'aujourd'hui, bon, il ne coûte pas trop à l'école quand même, et puis celui d'hier, il ne peut pas imaginer qu'il écrive à quelqu'un de beaucoup d'aussi éloigné dans le temps. Ce qui nous a vraiment permis avec Paul de travailler systématiquement sur les différences et les ressemblances entre 1914 et 2014. Les différences essentielles, aussi bien dans le quotidien que le fait qu'il n'y ait pas de sécu, le fait que voilà, Adrien en 1914 est pratiquement un adulte, il n'y a pas d'adolescence en 1914, alors que Adrien en 2014 est en plein dedans. Voilà le principe du livre.
Et alors, comment fait-on, Paul Delorme, quand on écrit un livre à quatre mains comme ça? L'un d'entre vous était l'un des Adriens et l'autre était l'autre. Comment ça se passe pour écrire comme ça?
On a beaucoup réfléchi, Serge, avec Sophie, et Sylvain, pardon. J'ai appelé Sophie à chaque fois parce que son prénom c'est Sophie.
Voilà, ça y est, un secret littéraire absolument gardé bien de près.
Et donc, on a imaginé cette histoire ensemble, chapitre par chapitre. Et on a décidé de rédiger chacun une des deux parties. C'est-à-dire, Sylvain faisait la partie de 1914 et je faisais celle de 2014. Sachant que c'est les chapitres sont alternés, il y a autant de chapitres d'une époque que d'autre. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un de plus de 2014.
Mais t'en es pas,
ouais, c'est bon. Tu veux toujours en faire un peu moins, hein. Et donc, le fait d'avoir deux époques différentes permettait de supporter deux écritures légèrement différentes. On n'écrit pas de la même manière en 2014, c'est-à-dire 1914. On ne parle pas tout à fait de la même manière non plus, même si, pour être tout à fait historiquement exact, on aurait dû parler en patois, en 1914, en Picardie. Mais on n'a pas voulu non plus que le livre ne soit accessible que aux spécialistes du Picard. Et donc, on a un peu triché en disant qu'il parlait français, ou en tout cas, en présentant au lecteur un roman écrit en français. Et on a fait des recherches ensemble sur la guerre de 1914, sur l'époque plus exactement de 1914, la guerre, mais aussi le mode de vie de ces personnes-là. Mais c'est quand même Sophie qui a rédigé chacun des chapitres de 1914. Bon, cela dit, on se faisait confiance, mais d'une manière, il limité tout de même, c'est-à-dire qu'on transmettait toujours le chapitre à l'autre auteur pour qu'il le valide, qu'il le corrige, et pour à la fin être tous les deux d'accord sur l'ensemble du roman, qu'on puisse signer à deux et se dire c'est notre roman.
Oui, du coup, on est tous les deux fichés au RG, parce que quand même, toutes les recherches sur, sur les gaz toxiques utilisés, on les a fait ensemble. Donc.
Alors, Alain, peut-être, avec vous, on s'éloigne encore plus de la guerre 14 originale, parce qu'en fait, chez vous, elle n'a pas eu lieu. Donc, c'est une chronique. Alors, peut-être pourriez-vous expliquer d'abord ce que c'est une chronique en général. Ensuite, élaborer un peu sur l'absence de guerre de 14.
Donc, pour être un grand spécialiste de la guerre de 14, on parle de la guerre de 14. Ça, je comprends bien. Dans cette fin, par exemple, on a demandé de faire un livre justement sur la guerre de 14. Je me suis dit, dans le courage, comment ça fait à ce moment-là. J'ai eu envie de faire une chronique parce que je connaissais déjà le sujet. Alors, une chronique, c'est un long présent. C'est pas mon parallèle, c'est un point. On prend un point précis de l'histoire et on divers. On a des atomes de divergence et après on regarde ce qui se passe. Alors bon, une chronique, on peut regarder ce qui se passe un mois après, ou 10 ans après, ou 5 ans après. Donc le candidat concernant les 14, j'ai l'attentat de Sarajevo en premier lieu. Ce qui m'a intéressé, c'est que cet attentat a failli ne pas avoir lieu. Donc, Ferdinand s'est baladé à Sarajevo, et il était attendu par tant de personnes qui venaient la peau, et ils s'étaient dispersés tout le long du parcours. Les deux premiers se sont baladés, le troisième a lancé une grenade qui a rebondi sur la voiture et a explosé dans la voiture suivante. Ils ont été laissés parmi les spectateurs et ils ont jeté la tête dans la voiture. Le Ferdinand est parti, il est attendu à la mairie. Il a écouté la cérémonie pour pouvoir se rendre à la ils entendent l'attentat en disant bah, tout est raté, ils sont tous partis sauf le chef qui est resté dans la ville, aéré dans la ville. Et à un moment, il a dégagé une bonne fin, il s'est acheté un sandwich, il n'est pas pour moi, sandwich, quand il a dégagé le chauffeur s'est fait tuer comme de lui pour aller à l'hôpital. Sont renforcés de plus en plus, ce qui fait que, à notre époque, toute la puissance économique de l'Allemagne et de la France sont au service de ces deux pouvoirs franchissables. Et du coup, l'émancipation des femmes n'a pas eu lieu, parce que ce n'est pas pour les ça n'a changé. Donc, la société, du coup, est très proche du monde de Z. Il y a des petites des choses qui. Un peu, par exemple, il y a quand même des TGV. Mais c'est des trains à grande vapeur.
Monsieur Pichu, alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes vraiment très proche de la guerre de 14, telle qu'elle s'est déroulée, qu'est-ce que ça vous inspire, cette approche qui est très différente de la vôtre?
Non, mais je réfléchis là, parce que.
Je voulais l'écouter avec attention.
Oui. En vous écoutant, je me disais que j'avais lu le récit la course à la guerre. J'avais lu très très attentivement. Et malgré la mise en garde de ceux qui avaient écrit ce livre, qui disaient, même en examinant les faits très attentivement, on ne comprend pas comment les gens ont quand même pu se précipiter dans la guerre. Je me suis dit, c'est pas possible. Une étude d'historien aussi fouillée. Comment est-ce qu'on ne comprendrait pas? Et en fait, on ne comprend pas parce que c'était une suite de décisions absurdes. Par exemple, à un moment donné, le Kaiser, quand on lui a dit que la Bosnie a présenté ses excuses à l'Autriche. Et il a dit, bon, ben alors, il n'y a plus besoin de faire la guerre. Et c'était tout. Normalement, ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, je ne me souviens plus maintenant pourquoi ça a persisté. Je pense parce que les officiers allemands et les officiers russes voulaient en découdre, donc ils ont poussé chacun de leur côté. Et même le tsar, à un moment donné, on a coupé sa ligne téléphonique, les généraux russes ont coupé sa ligne téléphonique pour qu'ils ne puissent pas interdire aux troupes de faire mouvement. Bon, donc, c'est vraiment une histoire un peu de série télévisée, quoi. C'est aussi absurde que ça. Et il y a une autre réflexion qui me venait aussi, c'est que là, j'ai lu récemment dans les mémoires de Churchill que lui, il avait vu, et d'ailleurs, il donne comme preuve de ce qu'il dit qu'il avait tenu un journal, il l'avait écrit dans un journal. Attention, Verdun est un point très très faible, et si les Français ne le renforcent pas, les Allemands vont être tentés de faire ce qu'ils ont fait en réalité, et les Français, au lieu de mener un combat qui va lâcher Verdun peut-être, mais qui va leur éviter des pertes, et après tout Verdun n'est qu'un symbole, en tout cas, ils pourront défendre quand même leurs frontières et épargner des vies humaines. Les Français vont être tentés, à cause de ce symbole, de le défendre coûte que coûte, et les Allemands vont les pilonner, vont leur faire beaucoup de morts. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et Churchill l'avait vu, ça. Et je me disais que si Churchill avait commandé au lieu des généraux qu'on a eu, on aurait eu beaucoup moins de victimes chez nous. Voilà la réflexion que je me faisais en vous écoutant.
C'est le principe même de l'épargner, c'est pas tant l'histoire qui est intéressante. Une figure de style, et un bon auteur, enfin, avec de la forme d'émergence différente, avec une histoire qui n'est pas plus grande, parce qu'il y a l'action. Un certain point, le premier montre la faiblesse de notre histoire, en page, ça va amener une accumulation de petites choses qui font qu'on a pu, dans ce monde aujourd'hui, dans ces erreurs, l'histoire est à un pas, c'est des données, donc, la montrée d'un pas, c'est pas
oui.
Je vais intervenir. Moi, je suis d'accord, je trouve ça très intéressant l'Ukraine pour poser des questions sur comment ça aurait pu être. Mais après, par contre, je suis moins d'accord sur le fait que ce soit arrivé. On savait ce qui allait se passer par un certain nombre de signes. Il y avait déjà eu des escarmouches. Sur le fait que ça éclate à Sarajevo, bah, c'était vraiment incroyable. En même temps, ça aurait sans doute éclaté d'une autre façon, puisque c'est ce qu'avait dénoncé Jaurès et avec tous les gens qui étaient avec lui. Là. Quand ils ont remis le service obligatoire de 3 ans quelques mois avant le début de la première guerre, c'est pas un hasard. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, on a mis dans le livre en illustration une première page de journal qui raconte ce qui va se passer dès le mois d'avril, qui dit, mais attention, parce que là, avec le retour du service militaire obligatoire de longue durée, qu'est-ce qu'ils préparent? Vous allez voir, ça va être la guerre. Et ils écrivent avec une espèce de précision affolante ce qui risque d'arriver, ce qui s'est vraiment passé. Et donc on l'a mis un petit peu dans 14-14 parce qu'on a ce personnage Adrien qui lui, bon, c'est un jeune garçon de 13 ans à la campagne, il n'imagine pas du tout. Par contre, il a un instituteur qui est politisé et qui se méfie justement de ce qui risque d'arriver, un grand-père qui s'en méfie aussi, et on a mis ce nom de Jaurès comme symbole parce que l'autre Adrien, lui, voilà, il y a une rue Jaurès à Nantes. Et évidemment, en 1914, ça n'existait pas. Et ça, c'était important aussi pour nous de montrer que pour les gens comme nous, les petits gens, c'était inimaginable, mais que d'autres, des gens plus engagés politiquement, ils avaient vu le danger venir et ils avaient prévenu contre ce danger. Et l'assassinat de Jaurès a aussi précipité et facilité l'entrée dans la guerre pour la France.
Je crois pas qu'il y a un grave de l'histoire. Effectivement, il peut y avoir des gens qui ont une bonne entrée de guerre, simplement pour s'enrichir parce qu'ils ont deux soucis à faire pour eux, et ça va leur apporter une nouvelle fortune de la guerre. Et ils sont pour moi, les gens qui vont plus faire pour ça, et si c'est des gens qui le gênent devant eux, ils vont les aider. Donc là, il y a un plan très très politique. Il y a une histoire nous a montré que vraiment, il y a des choses incroyables qui se sont passées, et la résultante de ce c'est un hasard, mais c'est.
Oui, je pense que je suis pas en train de dire que ça allait forcément se dérouler comme ça. Je pense qu'il y avait une volonté de faire la guerre de la part de certains politiciens et surtout certains industriels. Le prétexte est arrivé et de manière incroyable. Grave, ça aurait peut-être été plus tardif, ça serait peut-être pas arrivé. Et en tout cas, par rapport à Verdun, en effet, après, le fait que ça s'enlise pendant 4 ans, c'était pas du tout prévu. Ça, c'était une catastrophe qui n'était pas écrite. Hein. J'en doute pas de ça. Je pense pas que même les entrepreneurs les plus vils et les plus profiteurs aient souhaité 4 ans de guerre aussi terrifiante.
Je crois d'ailleurs que, si je me souviens, tu avais beaucoup corrigé, parce que justement, cette partie de recherche de la paix, la guerre a commencé une fois que les lois sont déterminées, donc, puisque les conscrits n'étaient pas tellement. De comprendre pour ce qui est à l'époque, c'était pas seulement des armes, quels que soient les pays en question, et il était prévu qu'ils soient de retour pour les semailles, grosso modo. Ah, il me semble.
Ouais, ça, ouais. Cette guerre-là, qui est une guerre de paysans, puisque 80% des paysans, et je crois que enfin, moi, je trouve ça intéressant, comme c'est une guerre de paysans, finalement, le travail de l'entraînement, il y a un travail de la terre, c'est-à-dire la creuser.
Oui, ce qui nous intéressait, nous, dans 14-14, c'était aussi le sort de ces populations civiles au nord de la France, puisqu'on parle en France, plusieurs millions de gens qui, pendant 4 ans, ont vécu l'occupation. Et aujourd'hui encore, dans ces régions-là, le souvenir de cette occupation et de cette guerre n'est pas la même que celle, le souvenir qu'on peut avoir. Je suis de La Rochelle au départ. Hein. La Rochelle, la guerre, ça veut dire simplement dire que les gens sont partis, il y a eu des morts et ils sont revenus moins nombreux et c'est affreux. Mais dans ces pays-là, enfin, dans ces régions-là, la Picardie, le Nord, la Lorraine, on a eu non seulement des destructions terribles, hein, on parle du petit village de Corbigny qui a été complètement rasé. Mais également, des populations civiles ont été quasiment asservies par les Allemands dans le but de satisfaire les forces de guerre, notamment la culture, enfin la culture de choux et de légumes pour les troupes allemandes. Et donc, on avait à cœur de parler d'autre chose que les tranchées, les poilus, ce dont on parle habituellement, mais aussi simplement des gens qui vivaient là, qui en sont pas mal hein, dans leur petite vie tranquille et qui se sont retrouvés avec cette catastrophe qui n'avait pas demandé, pas tellement deviné non plus. Hein. On parlait de quelque chose qui était politisé, mais pour la plupart des gens, c'était très très éloigné de toute l'idée politique, de la politique internationale. Ils n'imaginaient pas du tout que la guerre allait éclater 6 mois plus tard. On commence le roman en janvier, et en janvier, personne ne parle de la guerre. Dans le village, au moins.
C'est ça qui est absolument fascinant dans votre livre, c'est de montrer que cette société qui existait il y a un siècle, bien complètement disparue, nous paraît aujourd'hui totalement étrangère, mais en même temps, dans les ressorts profonds, rien n'a changé quelque part.
Ouais. C'est pour ça que moi, je trouve ça intéressant ce que tu fais avec l'Uchronie, c'est qu'en effet, on a eu à cœur de montrer des différences essentielles pour les jeunes. En plus, c'est un livre pour la jeunesse, donc on voulait aussi leur montrer ce qui avait pu évoluer. Mais concrètement, il y a plein de choses qui n'ont pas changé pour les petits gens. Et c'est pas un livre sur des héros, c'est un livre sur des gens comme nous. Alors, ce qui a changé essentiellement, hein, qu'on montre et qu'on met en avant, c'est la santé. La santé pour tous, et on a choisi de tuer un pauvre petit personnage pour montrer que c'est pour plein, on pouvait mourir d'une bronchite, en écho à ce qui s'est passé avec la grippe espagnole après-guerre. Donc ça a été un changement énorme. Par contre, il y a d'autres choses qui n'ont pas bougé dans la façon dont les gens vivent, simplement. Ces deux jeunes gens, s'ils deviennent amis, c'est parce que c'est pas impossible du tout, malgré des 100 ans d'écart.
Par contre, est-ce que vous pensez, M. Buchelu, que les mentalités ont changé au niveau de la guerre elle-même? Parce que ces soldats qui sont restés pour 4 ans, ces banquiers, qui ont vécu un enfer épouvantable, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui pourrait se reproduire aujourd'hui?
Alors là, vraiment, c'est le genre de question. Je suis incapable de répondre. Ce que j'observe, c'est que maintenant, en tout cas, les puissances occidentales évitent les pertes humaines chez leurs soldats. Ils préfèrent bombarder de loin, du plus loin possible. et ce n'est que quand ils sont contraints qu'ils envoient des troupes au sol. Donc ça prouve quand même une évolution de la mentalité. La vie humaine en Occident a beaucoup plus de valeur que l'on avait il y a 100 ans. Des saignées comme on en a connu, je crois que l'opinion publique les accepterait plus maintenant.
C'est acceptable. Alors, on parle de millions de gens qui meurent pour rien, pour gagner 10 mètres, pour refaire de main. Ça, c'est son petit inacceptable.
Mais les hommes étaient conscients de ça. On dit que les soldats sont très bons juges de ce qu'ils font. Ils ont beau être au niveau le plus bas de la tactique ou de la stratégie, ils comprennent très bien ce qu'on veut leur faire faire, dans quel but, si c'est pertinent ou pas, si on gaspille leur vie ou pas, ça ils le comprennent très très bien et ils sont bien placés pour le comprendre. Et Genevoix l'écrit dans ce 14. D'ailleurs, son ouvrage a été largement censuré quand il est sorti en 1916, je crois. Il l'a écrit aussitôt qu'il a été réformé pour sa très grave blessure. Il y a des blancs dans la première édition et il s'indigne avec véhémence contre ce qu'on leur a fait subir. Comment on a gaspillé leur vie, comment on les a exposés inutilement.
Et vous savez d'autant plus qu'il recevait un double rasoir de pognon juste avant d'y aller, vous pourrez un petit peu lever quand même.
Oui, non seulement ça, mais quand on leur demandait d'aller faire telle action contre une mitrailleuse et qu'ils savaient très bien qu'elle était inapprochable, que la première tentative qu'ils avaient faite, ils avaient perdu 10 hommes. Et que cette mitrailleuse-là ne les gênait pas tant qu'ils restaient dans cette position-là, et que d'aller la détruire, ça apporterait rien parce qu'ils en placeraient une autre à un autre endroit. Ils comprenaient très bien que les envoyer pour cette mission-là, c'était une mission suicide, et quand ils recevaient l'ordre de le faire quand même, ils étaient révoltés.
Je pensais là, en vous écoutant justement, ces soldats qui étaient dans les tranchées, et le sujet de cette tableau-là, qui est notre histoire et fiction. Me semble, là on a des fictions qui sont modernes, mais il me semble que déjà, pendant la guerre elle-même, il y a des fictions qui se sont faites et qui servaient quelque part pour encourager les soldats. Je pense à la fameuse nouvelle d'Arthur Macken sur les archers de Mons, des choses comme ça. Donc est-ce que c'est un sujet aussi que vous allez un peu étudier, les fictions qui aidaient à conserver le moral, que ce soit des troupes l'arrière à l'époque?
J'ai entendu parler de cette histoire des archanges là, et j'ai entendu hier dans une conférence par un historien que la représentation de la mort par les soldats allemands dans les journaux de tranchées allemands était complètement différente de la représentation qu'en faisaient les journaux de tranchées français. Et ce qui m'a frappé, c'est que les Allemands n'hésitent pas à montrer la mort, à montrer la mort symboliquement, dans leur personnage dessiné, la mort qui les tue, eux, allemands, avec beaucoup d'autodérision, une cruelle autodérision, alors que je ne vois pas dans les représentations françaises des soldats français tués. On voit des soldats allemands, on voit les Français triomphants, mais on ne voit pas les soldats français soumis à la mort. Et ça, c'est frappant. L'historien m'expliquait que les Allemands ont une conception complètement différente, culturelle, qui vient du passé chez eux.
De littérature aussi avant la guerre, vraiment juste avant, qui a écrit vraiment plein de choses sur cette guerre, enfin, imaginez la guerre de Corée, mais c'est pas mal de
Ah oui, c'est le fameux colonel Drian, c'est ça, qui est devenu colonel Drian, d'accord. Ah oui, non, je savais pas qu'il avait écrit, non.
On a d'ailleurs eu des tables rondes sur lui l'année dernière, puisque c'était le centenaire de sa mort. Il est mort au front en essayant de sauver un de ses hommes.
Et il a essayé d'avertir l'état-major et le pouvoir politique contre le danger que représentait Verdun aussi. C'est ça, il était député lui-même.
Il a vraiment demandé la guerre souveraine, qui est retraite.
Oui, d'accord.
On a eu l'occasion de montrer, parce que comme on a un personnage qui est écolier encore, qui va passer son certificat, de montrer comment déjà la propagande était faite dans les écoles avant même la guerre pour libérer l'Alsace et la Lorraine. On a eu l'occasion d'illustrer le livre, grâce à notre éditeur qui a trouvé que c'était une bonne idée de faire ça. On a montré par exemple une représentation de la Belle au bois dormant alsacienne qui se réveille enfin de son long sommeil libéré par les Français. et puis une dictée qui date de 1910, je crois, je ne sais plus, qui avait été donnée sur les pauvres Alsaciens, comme ils souffrent à cause des Allemands. Et donc, il y avait déjà, dès à l'école, hein, dès tout petit, les enfants étaient élevés, éduqués dans cette idée qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir les récupérer quand même, les pauvres gens qui vivaient là-bas. Quoi.
Il y en avait énormément qui étaient pour chaque matin de la Marseillaise et sur la carte montrer le morceau de la France qui manque pour avoir la langue.
Et justement, ça vous pensez aussi, puisqu'on reste toujours dans ces fictions, et que vous évoquiez la propagande, on pourrait peut-être aussi parler un petit peu de toutes ces fictions qui ont été inventées côté français. Au début de la guerre, je repense par exemple au fameux Ulan, il y avait les brochettes de main de bébé, leur lance, et des choses comme ça après la base de la Belgique. Donc là aussi, la fiction s'est donnée libre cours.
C'est la manipulation, tout
simplement. Oui, d'ailleurs, les soldats n'en étaient pas dupes, hein. Ils appelaient ça le bourrage de crâne, ils connaissaient la réalité bien mieux que le maître du journaliste qui faisait ce bourrage de crâne. Mais le reste de la population, justement, il était très loin de la guerre, et souvent on voit beaucoup d'amertume de la part des soldats quand ils revenaient en permission, de voir que la vie continuait, qu'ils se traînaient comme de misérables, comme nos SDF de nos jours, méprisés dans les rues. Et je me souviens même qu'on m'a raconté qu'un soldat était en train de cinéma, qu'il avait assisté à une projection d'actualité. On voyait des soldats qui mettaient le fameux masque contre les gaz, là. Et le public, qui était complètement inconscient de la chose, il faisait des cris de cochon. Et quand il a entendu ça, il a vu ça, le soldat, il a eu une envie de balancer une grenade dans cette salle de cinéma. Juste pour dire à quel point ils étaient éloignés, les civils. Bien qu'ils souffraient, eux, de la guerre aussi, en voyant tous les morts qui étaient annoncés dans les villages. En ayant des deuils aussi chez eux, malgré tout, ils ne vivaient pas la guerre. Il y a une grosse différence.
Il y avait les pénuries pendant la guerre aussi.
Des pénuries moins grandes que pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Hein.
Et on parlait de propagande. Donc, il y avait effectivement la propagande dans les actualités, mais je pense que ça, c'est peut-être sans doute que vous pouvez étudier un peu. C'est dans tous les jours, dans toute la jeunesse de l'époque, un peu avant la guerre, où on évoquait justement, il fallait récupérer l'Alsace et la Lorraine, etc. Et puis, dès le début de la guerre, il y a toute cette fiction qui se déverse dans les journaux pour enfants, qui est de propagande pour soutenir le moral.
On n'a pas beaucoup étudié parce que comme le roman se passe vraiment juste avant guerre, nous ça s'arrête juste avant que ça commence. On a regardé beaucoup de journaux de l'époque, les patents, on n'a pas regardé ce que ça donnait après une fois que ça a commencé.
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes penché, ou que j'ai lu aussi sur la représentation de la guerre dans les journaux pour les enfants?
Non, je ne me suis pas penché dessus spécialement. Je me suis beaucoup intéressé à la guerre de 14, ses origines. J'ai lu beaucoup de livres, mais pas spécialement à ça. Mais je tenais à dire quand même que parmi ceux qui ne voulaient pas faire la guerre, il y avait le gouvernement français quand même. Parce que je me souviens qu'il avait reculé devant l'ultimatum allemand, il avait reculé ses troupes de 10 km. Et à l'époque, on était encore sous l'influence, on considérait la guerre un peu à la façon napoléonienne. D'ailleurs, Joffre, il était partisan de l'offensive à outrance, ça nous a coûté beaucoup de pertes en 14. Reculer de 10 km une armée, ses armées, c'était avoir un énorme handicap sur l'ennemi. Donc c'était vraiment une preuve de bonne foi. Et le gouvernement, alors il y avait beaucoup de Français qui pensaient que la guerre, il fallait la faire, prendre sa revanche et tout ça, mais le gouvernement, il n'était plus lucide là-dessus.
Spécialiste de la science-fiction, est-ce qu'il y a d'autres uchronies que la vôtre qui envisagent la guerre de 14 sous des aspects différents? On parle des fictions. qu'on reste dans le sujet des fictions.
Oui, la connaissance, non. La connaissance, non. On est sur la fin de la mondiale, effectivement. Les années en ça c'est. Il y le chaton. Ce qui est très intéressant, c'est que les économies sont propres à chaque pays. Ce qu'on a envie de refaire. Le principal économie, c'est l'abonnement des gains et des retardants. Et ça nous touche. Mais l'Américain, il s'en fiche. Par contre, lui, c'est la guerre de sécession qui l'intéresse. À travers les quotidiens principales de chaque pays, on voit l'importance des points d'histoire qui touchent vraiment la population de chaque pays. Ça, c'est plus intéressant. Et puis, dans la guerre de France, je pense qu'il faut qu'on vienne, on parle des humains, mais on parle aussi des animaux. On peut être des bêtes de guerre, l'utilisation de tous les animaux dans les guerres.
C'était vraiment une volonté de notre part, justement, de ne pas, présenter des enfants particuliers, c'est-à-dire des fils de bourgeois, des fils de nobles, des gens politisés, des gens des grandes villes, mais de prendre un peu le monsieur tout le monde de l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui vivait dans un petit village, qui était paysan et qui avait l'instruction obligatoire de l'époque, hein, c'est-à-dire pas jusqu'à 16 ans. Et ensuite, comment le reconstituer, on s'est documenté sur la question. On a aussi fait le parallèle avec l'enfant d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à chaque fois que l'enfant d'aujourd'hui vivait quelque chose à son époque, on essaie de voir l'équivalent à l'époque de 1914. Qu'il s'agisse de problèmes de santé, qu'il s'agisse de problèmes d'affaires de cœur, qu'il s'agisse de problèmes de divorce, la société a beaucoup évolué. Donc à chaque fois qu'on avait quelque chose qui pouvait toucher l'enfant d'aujourd'hui en lui montrant sa propre vie, essayer de voir un parallèle, comment ça se passait en 1914. Et enfin, tu le diras peut-être mieux que moi d'ailleurs.
Oui, moi je me suis chargée du personnage de 1914 parce que j'ai beaucoup échangé avec mes grands-parents sur la question. Alors, ils sont nés après-guerre, mais c'était des paysans d'un petit bled du Lot. Donc, en termes de quotidien, les choses elles ont quand même pas beaucoup bougé pour les gens jusque même après la Seconde Guerre mondiale où ça a commencé, les campagnes ont commencé à se vider beaucoup plus. Et j'ai échangé énormément donc avec mon grand-père particulièrement sur le sujet. Qui était très content de me raconter l'école, la vie au quotidien. Et comme on voulait cette tonalité-là aussi, cette simplicité, c'était une source merveilleuse.
Je vais changer un peu, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réglée du problème de la technologie. Parce que cet enfant de 14 a une tendance à une prendre du papier écrit par rapport à l'utilisation de Internet pour envoyer un SMS.
Alors, au départ, sa mère lui demande d'écrire une carte de vœux à son cousin. Et très rapidement, il demande, Oui, pour l'instant, quand même, mais d'avoir un numéro de téléphone, ce serait vachement plus simple quand même pour s'écrire des lettres. Et l'autre, il dit le téléphone, cette invention merveilleuse, j'en ai entendu parler, mais il n'y en a pas en image. Et puis, il demande, t'as pas un email, on l'autre, on va du tout de quoi il veut parler, mais Facebook non plus. Donc, il y a certains quiproquos qui sont assez amusants pour le lecteur d'aujourd'hui, et qui permettent aussi au lecteur collégien, même s'il le sait, de se rendre compte d'espèce de faille, de gouffre technologique qu'il y a eu en 100 ans, même déjà en 20 ans, mais en 100 ans, le mode de vie a totalement évolué avec la technologie de voilà. Même la voiture, je crois qu'il y en a plus que rien, une voiture dans le village, mais c'est le seul.
Je crois que
le
siècle, les gens avaient 80 objets pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est au minimum 300. Il y a qu'à voir le bordel que dans les chambres de l'Europe. C'est intéressant de voir ça et en même temps de leur montrer aussi la technologie là, mais beaucoup de faiblesses par rapport à cet enfant de 1914 qui pouvait s'y donner parce qu'il savait qu'il pouvait, il savait qu'à la fin, aujourd'hui, le jeune ne serait pas capable de faire, il n'avait plus de temps, l'absence d'électricité n'est pas du tout plus faible que ces jeunes-là de
Oui, absolument. Et on intervenait souvent en collège avec Sylvain, dans le cadre du thèse incorrectible, on a rencontré beaucoup d'élèves, et une des questions qu'on leur posait, c'est, dans votre quotidien, est-ce que vous pourriez citer des objets technologiques que vous utilisez et qui existaient déjà en 1914, ou qui existent? Et souvent, c'est difficile pour eux. Ils me disent, le téléphone, ça existait, mais pas le téléphone portable, et alors, les hélicoptères, non, les antibiotiques, non, ils ne connaissaient pas. Et tout ce qui est ordinateur. Et donc on finit par trouver quelque chose. La voiture, ça existe. La radio, ça existe. Mais à chaque fois, dans des proportions et dans des technologies qui ont. Même la radio et le téléphone, c'est pas mal changé. Ça existait.
C'était pour compléter sur la machine à laver. On a fait des parallèles. Donc Paul expliquait tout à l'heure où elle est. On a montré les grosses différences, mais on a montré aussi les petits détails, le petit déjeuner, etc., et la machine à laver. Et depuis, j'ai eu la réflexion avec un ami qui me disait, mais en fait, la machine à laver, c'est tellement incroyable, on a gagné tellement de temps, nous les femmes, que par exemple, ça nous a permis de lire, en regardant la machine tourner, au lieu d'aller la faire. Et ça, c'est très tardif, le fait qu'il y ait une machine à laver dans le foyer. Les gens ont commencé à être réellement équipés de machines à laver à partir des années 70. C'était un changement pour les femmes, parce que ce n'était pas les bonhommes qui lavaient en général.
Vous savez, moi, les dragons, parce qu'on veut l'avoir, c'est quand même un grand moment de partage.
Mais on lisait moins.
J'avais une question de ce que j'ai eu, parce que justement, si elle est bien, c'est que dans le cadre de cette recherche, elle avait eu des discussions avec ses grands-parents, etc. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec certains des démons poilus survivants il y a quelques années
Non, je n'ai pas eu cette occasion-là. Je me souviens, quand j'étais enfant, d'avoir vu des mutilés.
Des
gueules cassées, oui. Je me souviens d'un homme qui avait un bandeau noir au milieu du visage parce qu'il n'avait plus de nez. Je me souviens d'amputés dans des petites charrettes qu'ils actionnaient, voilà. Les gueules cassées, voilà. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît.
Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de discuter avec des témoins de l'époque.
Oui, non, j'ai pas eu cette occasion-là. Mais alors, ça, c'est vraiment drôle parce qu'il y a un an de ça, je parlais avec un collègue dessinateur qui a mon âge, et on parlait de la guerre de 14, et il m'a dit mon père, il a combattu dans les tranchées. J'ai dit ton père, tu veux dire ton grand-père? Non, mon père. Père. Et c'était son père, il avait eu 8 ans, 67 ans. Mais alors, ça va être rare quand même ça, hein, quelqu'un de 55 ans, dont le père a combattu dans les tranchées. Voilà, alors, je réponds à côté de votre question, mais j'y réponds quand même.
J'ai une anecdote, c'est dans le village de chez moi, il y avait les anciens de 14 qui se disaient une fois par semaine pour venir là tous ensemble. Et un jour, ma mère a décidé de faire quelque chose pour eux, pour faire des médailles. Demander à les 4 jamais fait la guerre, mais même ses 3 ans, il ne savait pas, parce qu'il avait inventé un c'est complètement modulé.
Ça, c'est une histoire vraie. Alors
c'est quelque chose à nous qui nous a semblé important quand on a voulu faire 14-14 pour les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est que même si nous on n'a pas forcément connu de poilus directement, on voyait des témoignages plus facilement, il y en avait toujours un à la télé au moment du 11 novembre, on sortait les gars de moins en moins nombreux qui avaient survécu. Et on s'est dit, mais quel sens ça va avoir ce centenaire pour nos propres enfants c'est tellement loin. Et on a redonné du sens aussi à ce conflit essentiel dans notre histoire, je pense, avec ces livres-là, qui vont à un moment pouvoir remplacer un petit peu la parole de ceux qui sont partis. C'était un peu l'objectif. Et alors, une anecdote aussi, parce que moi, ça m'a frappé. Et là, dernièrement, la doyenne de l'humanité est morte, ce qui arrive très régulièrement, puisqu'on a automatiquement une nouvelle. Sauf que là, celle-là, elle était particulière. C'était la dernière femme, la dernière personne née au 19e siècle, puisqu'elle était née en novembre 1899. Et donc, la nouvelle doyenne est née au début du 20e. Et en effet, ces gens, ils disparaissent. Il n'y a plus grand monde qui l'a vécu. Que ce soit dans les tranchées ou même en dehors.
Heureusement, je pense que là, le centenaire va clôturer la guerre de 14. Parce que là, c'est passé pour les images futures.
Moi, je ne suis pas sûr de ça, justement. Pas sûr du tout. Je crois que la guerre de 14, elle est dans l'imaginaire français, dans la mémoire française très particulière. Et je suis content que la commémoration ait lieu pour la remettre de façon plus vraie, plus vivante dans la mémoire française. Alors, justement, je voulais dire à propos des jeunes, là, ce matin, je discutais avec une personne qui est là et qui a fait un ouvrage très intéressant, très utile pour la jeunesse. Et elle me disait que les élèves qui arrivaient dans des visites des sites de la Première Guerre mondiale, préparés par cet ouvrage-là, arrivaient avec beaucoup d'intérêt, beaucoup une attitude très respectueuse, alors que ceux qui ne l'avaient pas été, comme je l'ai entendu dire par une collègue là, pas préparés du tout, on leur avait présenté des photos de gueules cassées, et ça les avait fait rire. Ils disaient « Ah, ça me rappelle telle série de science-fiction, ils ont des gueules comme ça, alors, c'est très très choquant. » C'est choquant, mais en fait, ils ont l'innocence des enfants, ils ont beau avoir 14 ans, c'est de véritables enfants, pas éduqués du tout. Et c'est pour ça que je suis content que cette commémoration les éduque un peu sur ce sujet-là précis, qui est un sujet vraiment important, qui a des répercussions bien plus larges que la guerre de 14 elle-même. Voilà pour la jeunesse. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que moi, j'ai fait beaucoup ce livre Jeunes Voix pour faire connaître le livre aux jeunes générations, que les illustrations les aident à entrer dans le texte. En plus, ce sont des extraits, parfois, de quelques lignes. Donc, c'est un livre très aéré. Donc, l'écriture de Jeunes Voix est tellement limpide que lorsqu'on en lit quelques lignes, lorsqu'on lit le livre, on peut avoir envie assez facilement de lire le texte original.
Cette table ronde sur la grande guerre entre l'histoire et l'édition, et je crois qu'effectivement on a beaucoup de faire tous ces sujets. Donc, merci à vous.